Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, 13 gendarmes ont été tués et 5 autres blessés hier dans une embuscade sur l'axe Kayadouri et selon la gendarmerie, une offensive est actuellement en cours. Et face à l'avancée des groupes armés, le président de la transition, Paul-Henri Damiba, lance un ordre de mobilisation des anciens militaires pour les besoins de la nation. En République démocratique du Congo, le bilan de l'accident de train dans le Katanga s'alourdit. Il passe de 60 à 75 morts. L'ancien candidat à la présidentielle de 2015, Boukari Ouédraogo, dit Tintin, a tiré sa révérence hier. Et notre invité est le docteur Samson Dabiré, juriste. Avec lui, il sera question des circonstances dans lesquelles les États africains peuvent décider de restreindre les libertés de leurs citoyens pour faire face à des situations où leur survie en dépend. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue. Insécurité pour commencer, 13 gendarmes ont été tués et 5 autres blessés hier dans une embuscade sur l'axe Kayadouri. Dans la journée du 13 mars 2022, une équipe du 13e escadron de gendarmerie mobile de Dori, en mission d'escorte sur l'axe Dori-Kaya, à environ 5 km de Taparko, province du Namantenga, dans la région du Centre-Nord, a porté secours aux victimes de l'explosion d'un car de transport en commun qui était monté sur un engin explosif improvisé, peut-on lire dans un communiqué publié aujourd'hui par la gendarmerie nationale. Selon le communiqué, de retour de sa mission aux environs de 15h30, la même équipe a été la cible d'une embuscade tendue par des hommes armés sur le dit axe. La riposte des gendarmes a permis de repousser l'attaque. Malheureusement, nous déplorons 13 gendarmes tombés et 5 blessés pris en charge, indique la gendarmerie nationale qui précise qu'une offensive est actuellement en cours et un bilan exhaustif sera dressé à l'issue de cette attaque. Au lendemain de cette attaque, le président Damiba lance un ordre de mobilisation des anciens militaires au titre de la réserve pendant la période allant du 10 au 18 mars, selon un décret rendu public aujourd'hui même. La mobilisation, qui concerne les militaires des catégories sous-officiers et militaires de rang, admis à la retraite au cours des années 2019, 2020, 2021, est lancée pour les besoins de la nation. L'ancien candidat à la présidentielle de 2015, Boukari Ouédraogo, dit Tintin, a tiré sa révérence hier. Boukari Ouédraogo, dit Tintin, a été candidat indépendant malheureux à l'élection présidentielle de 2015. On se rappelle, il avait obtenu 15 007 voix, soit 0,48%. Son inhumation a eu lieu hier dans la soirée à Ouagadougou. Bonne nouvelle pour les fumeurs et les alcooliques qui sont toujours sous l'emprise des excitants. La Direction générale d'Argile Santé Nord Parfum a trouvé la solution pour ces accros. Ne plus fumer, ne plus boire sont désormais possibles grâce à une plante médicinale du nom d'Anona Senegalengis. Ce produit contre le tabagisme et l'alcoolisme a été présenté à la presse samedi dernier. Suivons les vertus de cette plante avec Charles Da.
On sait seulement, ce n'est pas un produit qui est compliqué à utiliser. C'est une poudre. Si je vous le donne tout de suite, vous mettez dans votre bouche, vous avalez. Si vous êtes alcoolique et que vous tirez votre bière, ça va bloquer tout de suite, immédiatement. Vous n'allez pas pouvoir l'avaler.
Les dépendants de l'alcool et du tabac sont donc interpellés à faire de leur santé une priorité. Stop Sissi, le produit qui vient d'une plante médicinale du nom de Anona Senegalensis, ôte aux fumeurs l'envie de fumer et enlève le goût de l'alcool chez les alcooliques. Un rêve devenu une réalité que se réjouit le chercheur tradipraticien Oumar Oubda, PDG d'Argile Santé Nord Parfum.
Le message c'est que tout le monde recherchait dans ce monde-là à Paris, au Burkina Faso. Et c'est quoi? C'est un produit qui peut lutter efficacement contre le tabagisme dans tous ses formes et l'alcoolisme. Et on a voulu seulement que la presse soit témoin des faits que le produit que nous avons découvert a pu faire réellement. Parce que c'est quand même impressionnant de savoir que du plus belle lurette, malgré la science, l'avancement de la science, personne n'a pu découvrir un produit qui peut amener à quelqu'un d'arrêter de consommer la drogue. Et c'est au Burkina ici, par un citoyen lambda comme moi, il faut dire que c'est un don de Dieu.
C'est une trouvaille déjà avalisée par le ministère de la Santé et l'Organisation Ouest-Africaine de Santé, OAS. En plus de son effet indésirable sur les fumeurs et les alcooliques, Stop Sissi soigne la pneumonie, les infections respiratoires, les troubles de sommeil et purifie le corps.
Solidarité dans ce journal, l'association Cœur Solidaire Burkina a remis du matériel de métier à tisser aux femmes démunies. C'était au cours de sa célébration en différé du 8 mars qui s'est tenue samedi dernier à Ouagadougou. Pierre Badolo pour le compte-rendu.
Déjà un an qu'elle existe, mais elle ne cesse d'émerveiller les femmes quant aux questions d'autonomisation. Son objectif est de voir la femme un jour épanouie économiquement et contribuer aussi au développement de sa famille et du Burkina. Sandrine Tankwanou, présidente de l'association Cœur Solidaire Burkina.
Nous, on s'est rendu compte que accompagner les femmes à travers des vives, etc., c'est bien, mais le plus important, c'est de leur permettre de pouvoir gagner leur vie honnêtement elles-mêmes et de pouvoir participer aussi au développement de leur famille, aussi au développement du Burkina Faso. Donc, pour nous, il s'avère important que les femmes puissent apprendre un métier et qu'elles puissent travailler afin de pouvoir vraiment garantir elles-mêmes leur autonomisation. Donc, à chaque fois que nous avons l'opportunité, nous rassemblons les femmes, nous les formons et nous mettons en leur disposition des kits et de matériel pour pouvoir travailler.
L'autonomisation de la femme touche plus d'un au Burkina. Et Danfani, une marque de pain tissé, n'a pas voulu rester en marge. Solidaire à la cause de la femme, la première responsable de cette marque n'a pas hésité à accompagner l'association. Aline Sawadougou, marraine de la célébration en différé de 8 mars.
Danfaniment fait la promotion aussi du pain tissé à travers une association de femmes. Donc tout ce qui touche à l'épanouissement de la femme touche aussi à Danfaniment. C'est dans cet élan de solidarité là que nous avons dit que nous allons vraiment soutenir Cœur Solidaire de Femmes.
Un don qui réjouit les bénéficiaires qui promettent d'en faire bon usage afin de faire profiter toute la famille. En plus de ce don de 8 mars en différé, l'association Cœur Solidaire vient en aide aux femmes de diverses manières. En seulement un an d'existence, elle a précédemment accompagné les femmes dans la fabrication du latéké, en élevage, en tissage, à acquérir des moulins de transformation des produits et denrées alimentaires. Soucieux de l'éducation, plusieurs enfants déscolarisés ont retrouvé le chemin de l'école grâce à l'action de cette association.
Toujours dans le cadre de la commémoration du 8 mars en différé à Touga, dans la province du Sourou, un fils de la localité, en l'occurrence l'ex-député de la 7e législature, Mamadou Diallo, a offert samedi dernier un don constitué d'une tonne de pâtes alimentaires et un lot de pain aux femmes vulnérables des différentes communes. La cérémonie s'est déroulée dans la sobriété en présence des autorités locales. Plus de précisions avec Ambroise Canadon qui, à Touga.
Outre les femmes déplacées internes, certaines issues de la population haute ont aussi besoin d'assistance dans ce contexte marqué par la crise sécuritaire. Pour le donateur, il ne saurait rester indifférent face à la souffrance des femmes. Mamadou Diallo, ex-député de la 7e législature.
Nous savons tous les problèmes que vivent notre pays, et principalement notre province. Il y a l'insécurité, il y a les populations déplacées, il y a les populations qui ne sont pas cultivées. L'État fait ce qu'il peut. Que ce soit l'action sociale, il y a des ONG, etc., etc., qui font beaucoup de choses. Mais c'est dirigé vers une population de déplacés. Les femmes qui ne sont pas déplacées, qui sont là, il y en a malheureusement qui souffrent autant que les déplacés. Donc symboliquement, je voulais apporter ma petite contribution.
Les femmes sont les plus affectées par la flambée des prix des produits de première nécessité. La coordonnatrice provinciale des femmes du Sourou, Christine Yelemutoé, lance un cri de cœur à tous les ressortissants de la localité pour voler à leur secours.
Nous invitons tous nos fils, toutes nos filles du Sourou à entendre le cri de cœur de ces femmes pour venir soulager un tant soit peu leur souffrance. Actuellement, tout est cher. Il y a l'insécurité et tout ça impacte les femmes.
Composé d'une tonne de vivres et d'épargne, ce don vient redonner du sourire à plus d'une centaine de femmes du Sourou. Marie Koussoubé, déplacée interne du village de Loroni, est l'une des bénéficiaires.
Nous sommes déplacés à Kabor Loroni. Je suis une femme déplacée de l'Oronie. Je suis très heureuse de recevoir ce don. Je tiens à remercier vraiment le donateur. Nous sommes vraiment dans le besoin. Merci encore. Merci.
En rappel, au regard de la nébuleuse, l'autre moitié du ciel au Suru n'a pas festoyé cette année à l'occasion de la 165e journée internationale de la femme. Ambroise Canadon qui, Tougan, Radio Omega.
Après la première édition de Ma ville en peinture, tenue du 4 au 9 octobre dernier, la promotrice de l'événement a organisé ce week-end une soirée de remerciements au cours de laquelle une vingtaine d'œuvres réalisées pendant la campagne ont été vendues et la somme remise aux femmes de la Brigade Verte. Remise d'attestation, prestations d'artistes ont meublé cette cérémonie de reconnaissance. Le compte-rendu signé Jean-Paul Ouedraogo.
Dernier coup de pinceau, cette fois-ci autour d'un verre. C'est le temps de remerciements et de reconnaissance autour du projet Ma ville en peinture. C'est l'apothéose d'une initiative qui a pour ambition de permettre à toute la population de la capitale de communiquer à travers l'art qui est celui de la peinture. Un coup d'essai devenu un coup de maître. Adjaratou Ouedraogo, promotrice du projet.
Ça a été super. C'était vraiment, pour ne pas dire 150 sur 100. C'était vraiment super, c'est bien, c'est un gros succès. Parce que je ne m'attendais pas à autant de succès et vraiment ça s'est bien passé. On va décentraliser Ma ville en peinture pour ne pas que ce soit seulement à Ouaga. On va faire dans plusieurs villes de Ouagadougou et aussi à l'international parce qu'on va faire Ma ville en peinture Dubaï, Malawi, en Côte d'Ivoire, au Togo. Et c'est déjà calé.
Une grande ambition d'un cœur qui agit. Une vingtaine d'œuvres ont été vendues au profit des femmes de la Brigade Verte pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. De quoi réjouit le cœur de la représentante de la présidente de l'association des femmes de la Brigade Verte, Pokompa Henriette Tamboura.
Pokompa, les femmes qui nettoient la ville de Ouagadougou. Chaque matin, dès 4h, 3h du matin, ces femmes sont déjà dans la ville pour rendre la ville propre.
Ce chèque de 2 millions de francs CFA est une manière de magnifier et de reconnaître le travail qu'abattent au quotidien les femmes de la Brigade Verte pour rendre coquette la ville de Ouagadougou, la capitale burkinabé. Dire à la promotrice de Ma ville en peinture qui n'attend pas s'arrêter en si bon chemin.
Ma ville en peinture, ville en peinture, ma ville en peinture.
Le tour d'horizon de l'actualité internationale nous est proposé par Régis Bonny.
Au Mali, l'armée nationale et les groupes djihadistes sont engagés dans une lutte sans merci. Les forces françaises Barkhane et européennes Takuba ont annoncé leur départ du pays en raison de nombreux désaccords avec les autorités de transition. Les femmes à forces armées maliennes et leurs nouveaux alliés russes se retrouvent donc en première ligne face au groupe État islamique au Grand Sahara, et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Depuis l'arrivée de supplétifs russes, l'armée malienne multiplie les opérations de terrain et présente d'impressionnants bilans. Mais de nombreuses sources sécuritaires, des chercheurs et des organisations communautaires jugent ces bilans très exagérés et dénoncent des exactions sur des civils. En République démocratique du Congo, le bilan du déraillement du train de marchandises dans le sud-est du pays, survenu mercredi dernier, est passé de 60 à 75 morts après la découverte d'autres corps, a indiqué ce dimanche le gouvernement. Au terme de sa visite d'inspection sur le lieu de l'accident, le directeur de la Société nationale des chemins de fer du Congo, Fabien Mutombe, a communiqué le bilan officiel de 75 décès et 125 blessés, dont 28 avec un traumatisme grave. L'accident s'est produit à cheval entre les localités de Kitenta et Bouyofoy, dans le territoire de Lubundi, province du Lualaba. Selon le gouvernement, la cause de l'accident est, je cite, « la coupure brusque de la traction qui a entraîné la dérive de la rame et des wagons dans un ravin ». Fin de citation. Le gouvernement, tout en déplorant ce drame, a présenté ses condoléances aux familles éprouvées et, je cite, « pris des dispositions quant à la prise en charge des victimes ». Fin de citation. Toujours en RDC, la loi Tchiani, que certains comparent à la notion d'ivoirité qui a déclenché la crise en Côte d'Ivoire, est de nouveau proposée au débat du Parlement. Son auteur, Noël Tchiani Mwadiamvita, a écrit à l'Assemblée nationale afin de proposer que ce texte puisse être examiné au cours de la prochaine session qui débute le 15 mars prochain. Sa proposition de loi vise le verrouillage de l'accès aux fonctions de président de la République et l'impossibilité de déchoir un Congolais d'origine de sa nationalité. Hors du continent, l'Ukraine a affirmé ce 14 mars qu'elle exigerait une trêve immédiate et le retrait des forces russes lors d'une nouvelle session de négociations avec Moscou, prévue par visioconférence dans la journée, près de trois semaines après le début de l'invasion, relate l'agence France Presse.
Omega Sport.
Le Sourou Sport, cette équipe qui a réalisé de belles performances il y a quelques années, fait face aujourd'hui à d'énormes difficultés de plusieurs ordres. Le staff technique lance un cri de cœur à l'endroit des ressortissants de la localité. Le point avec Ambroise Kanadonki sur place à Touga.
Le Sourou Sport, qui a fait de belles prouesses en première division par le passé, traverse aujourd'hui une période sombre de son parcours. Ibrahim Sawadogo, capitaine de l'équipe, lève un pan sur la situation.
À l'heure actuelle, il faut dire que l'équipe est délaissée. En toute sincérité, les joueurs ne sont pas du tout motivés. Les autorités n'accordent pas une importance à notre club. Depuis que nous sommes descendus en troisième division, l'équipe vit réellement dans des conditions très précaires. Même pour s'entraîner, le minimum manque.
Il faut cependant signaler que le Sourou Sport a bénéficié de l'accompagnement de la commune de Tougan ces dernières années. Amidou Zerbo, l'un des joueurs qui a permis à l'équipe d'engranger des victoires de par le passé, réaffirme son engagement à soutenir la jeune génération.
C'est la commune vraiment qui nous soutient un peu. Les déplacements, les ballons, bon, c'est compliqué. Voilà, nous qui avons vraiment fait monter l'équipe en 2008, on a vu qu'on ne peut pas laisser l'équipe seule comme ça. Donc on est venu pour essayer d'aider nos jeunes frères.
Monter en deuxième division et éventuellement en première, telle est l'aspiration actuelle du Sourou Sport. Cet objectif ne sera atteint qu'avec le concours des fils et filles de la province, foi de l'entraîneur Gibril Thiema.
On attend leur soutien, qu'ils puissent nous venir en aide pour qu'on puisse... D'ici là, faire monter le club en 2-2, de la D2 monter en 2-1.
Le Sourou Sport prendra part au championnat régional de 3e division à Dédougou en fin de semaine. L'équipe vainqueur à l'issue de cette compétition représentera la région de la boucle du Mouroun au championnat national. Ambroise Kanadonki, Tougan, Radio Omega.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Il est question de droits de l'homme avec notre invité du jour. Il a présenté il y a deux semaines à l'Université Joseph Kizerbo son livre publié en 2020 et intitulé « Les dérogations aux droits de l'homme en Afrique, le droit africain des droits de l'homme et des peuples à l'épreuve des circonstances exceptionnelles ». Docteur Samson Dabiré, juriste, y explique dans quelles circonstances les États africains peuvent décider de restreindre les libertés de leurs citoyens pour faire face à des situations où leur survie en dépend. L'exemple de l'état d'urgence dans certaines régions du Burkina touchées par le terrorisme. Avec Abdoul Fattah Tiemtouré, l'auteur a tenté de rendre le contenu de son livre bien plus accessible.
Docteur Samson Dabiré, bonjour.
Bonjour Monsieur Tiemtouré.
Vous avez publié samedi 26 février un ouvrage intitulé, je cite, « La dérogation aux droits de l'homme en Afrique, le droit africain des droits de l'homme et des peuples, à l'épreuve des circonstances exceptionnelles ». En quoi consistent ces dérogations dont vous traitez et quel est l'état des lieux que vous avez dressé dans cet ouvrage ?
Le mécanisme de la dérogation, en réalité, c'est un mécanisme qui est prévu par le droit international des droits de l'homme, qui permet à un État, lorsqu'il fait face à une crise grave, à une circonstance exceptionnelle qui menace sa survie, de mettre entre parenthèses, de suspendre un certain nombre de droits et libertés, le moment de résorber la crise avant de revenir à la normalité. Alors, dans le bouquin, j'essaie de faire le tour du mécanisme, de regarder ses conditions et surtout de l'examiner dans le contexte du droit international africain des droits de l'homme. Et je fais le constat dans cet ouvrage que contrairement aux autres systèmes de droits de l'homme qui prévoient expressément un mécanisme de dérogation, dans le système africain des droits de l'homme et des peuples, il n'y a pas de mécanisme exprès de dérogation qui est prévu. C'est-à-dire que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est l'instrument de base dans le système africain des droits de l'homme et des peuples, est silencieuse sur la possibilité ou non de suspendre en période d'état d'exception des droits et libertés.
Vous parlez de la spécificité africaine, c'est là même où il y a le plus souvent de circonstances exceptionnelles avec des conflits armés récurrents, rébellions, guerres civiles, coups d'État, etc. Mais c'est là aussi où on semble ne pas avoir suffisamment légiféré sur les conditions dans lesquelles ces dérogations sont autorisées. Est-ce que je résume bien la situation?
De façon générale, le continent africain fait partie des continents où nous avons comme lot quotidien des situations d'exception. Mais paradoxalement, la Charte africaine n'a pas aménagé la possibilité de suspendre des droits et des libertés. La Commission africaine a considéré que ce silence signifiait qu'un État africain, même confronté à une situation de crise grave, ne pouvait pas suspendre des droits et des libertés. Alors, la posture de la Commission africaine n'est pas tout à fait constante. Déjà, elle est assez critiquable, puisque le silence pouvant aussi signifier que l'on peut. Et donc, la thèse que je soutiens, ou l'idée générale que je soutiens, c'est que malgré ce silence de la Charte africaine, le système africain permet de suspendre des droits et des libertés le temps de résorber la crise.
Alors docteur, est-ce qu'il pourrait s'agir en fait d'une précaution africaine pour éviter que des États ne puissent en abuser tout simplement?
Pendant les travaux préparatoires, la question n'avait pas été posée, c'est-à-dire que ceux qui ont concocté le projet de charte, et même au moment où les États l'adoptaient, la question de la dérogation n'avait pas été posée. Maintenant, lorsqu'on regarde les quelques fois où la question a été posée à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, donc qui est l'organe créé par la Charte africaine pour interpréter celle-ci, on se rend compte qu'il y a une sorte de coïncidence qui trouble. C'est que toutes les fois où la question où un État s'est prévalu du mécanisme de la dérogation et que la Commission en a connu, il s'agissait de situations de violations graves et notamment des cas de conflits armés ou des cas de juntes militaires. Et donc, on a l'impression, et en tout cas c'est ce que je pense, que c'est par prudence que la Commission africaine n'a pas voulu admettre du silence de la Charte la possibilité de déroger. Mais je ne pense pas que c'est une posture qui tient. Je crois que la solution n'était pas idoine. Parce que le mécanisme de la dérogation, en soi, n'est pas une violation des droits et libertés. Et ensuite, c'est un mécanisme pragmatique, puisqu'il reconnaît qu'il y a des situations dans lesquelles les États faisant face à des situations de crise grave, ne peuvent pas résorber la crise sans mettre entre parenthèses certains droits et libertés.
À présent, on va essayer de rapprocher le sujet du Burkina. Dans la législation burkinabè, qu'est-ce qui est prévu à propos de ces dérogations-là et dans quelles conditions, dans quelles situations le pays a-t-il eu besoin de s'en servir?
Si on rapproche la situation au cas du Burkina Faso, vous ne trouvez pas de loi spéciale sur le mécanisme de la dérogation, ni dans la Constitution, vous ne trouvez pas de disposition expresse. Mais vous trouvez une réglementation assez bien étoffée sur ce qu'on appelle les états d'exception. Donc nous avons dans notre législation, d'abord dans la Constitution, les articles 58 qui prévoient que le président peut, après délibération en Conseil des ministres, décréter l'état d'urgence et l'état de siège. Donc ce sont deux situations ou deux états d'exception prévus par la Constitution et vous avez une loi qui a été adoptée en 2019. Portant réglementation de l'état de siège et de l'état d'urgence. Donc c'est la loi numéro 023-2019. Donc elle venait remplacer une ancienne loi qui datait de 59. Donc en 2019, lorsque on décrète l'état d'urgence au nord et à l'est du Burkina Faso à la suite des attentats terroristes, le Burkina Faso notifie au secrétariat général des Nations Unies que lui, dans le cadre de la résorption de la crise terroriste au nord et à l'est, a dû décréter l'état d'urgence et que les mesures d'état d'urgence sont en réalité des mesures dérogatoires et que donc lui dérogeait pour un certain temps à la liberté de mouvement, à la liberté d'expression et au droit à la vie privée. Pour ce qui concerne l'état de siège, il y a eu une déclaration ou un décret d'état de siège un peu calamiteux en 2014, lorsque, à la suite de l'insurrection populaire, on avait demandé le départ de Blaise. Avant de partir, il a décrété l'état de siège et quelques heures après, il a levé l'état de siège. Alors, dans mes recherches, j'ai vérifié, cet état de siège n'a pas fait l'objet d'un décret en bonne et due forme, parce que le président Blaise Compaoré avait décrété l'état de siège alors même qu'il avait déjà dissous le gouvernement. Et si vous regardez l'article 58 de la Constitution, il dit que l'état de siège ne peut être décrété qu'après délibération en Conseil des ministres. Ce décret n'est jamais apparu dans le journal officiel.
Merci, docteur Samson Dabiré.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction.
Fin de ce journal réalisé par Adama Konaté à la présentation. Abdoul Kader Konaté, merci de votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.